Vous écoutez France Culture.
Pas la peine de crier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invitée de cet après-midi s'appelle...
Françoise Fontizy-Ducroux.
Sous-directrice honoraire au Collège de France, elle est helléniste. Avec elle, nous évoquons Europe, l'évolution des représentations dont elle fait l'objet et les raisons peut-être pour lesquelles on décida un jour de nommer ainsi un espace géographique. Il s'agira de la première étape de cette semaine entièrement imaginée autour du mot Europe. Ça commence. Au milieu des notes qui traitent directement du cinéma, de celles qui ont affaire avec l'amour, l'homme, la femme, le couple, le désir et la domination, il y a cette phrase de Michelangelo Antonioni qui donne son nom à ce tout petit livre « Comincio a capire »,« Je commence à comprendre », et dont le traducteur dit qu'il manque à l'expression son complément, comme si « je commence à comprendre » ce mouvement-là, du début de la compréhension, était déjà tellement beau et tellement plein qu'il se suffisait. En aucun cas, il s'agit de dire qu'Antonioni manquerait de précision, en témoigne ce fragment par exemple qui dit « La chose intolérable pour moi est qu'il y ait des forts et des faibles, qu'on soit fort devant les faibles et faible devant les forts, et j'enrage autant contre les forts que contre les faibles. Je commence à comprendre » est paru aux éditions Arléa, vous écoutez France Culture, et c'est pas la peine de prier. Quel lapsus! Sur le Polaroid du jour apparaissent des hommes coqs. Sur le plateau du milieu vers 16h20, le premier moment d'une semaine entièrement imaginée autour du mot Europe. Premier moment mythologique, on s'approche, sans la capturer, de la déesse Europe. Vers 16h50, nous écoutons les poèmes des Béguines, d'Adéwich d'Anvers, mystique et poétesse flamande du XIIIe siècle. Et ensuite, il sera 17h et nous serons rejoints par les équipes du 5 à 7. Mais pour commencer, entrons dans une nouvelle bibliothèque. C'est la comédienne Claude Desgliam qui déballe sa bibliothèque pour nous cette semaine. Elle commence par un texte de Jean Genet, Rembrandt. Y sont rassemblés ce qui est resté d'un Rembrandt déchiré en petits carrés bien régulier et foutu aux chiottes, ça c'était paru en 1967, et Le secret de Rembrandt, ça c'était paru en 1958. On écoute Claude Desgliam.
Si je devais schématiquement, grossièrement, rappeler cette démarche, une des plus héroïques des temps modernes, je dirais qu'en 1642, mais l'homme n'était déjà pas banal, le malheur surprend, désespère, un jeune ambitieux, plein de talent, mais aussi de violence, de vulgarité et d'exquise délicatesse. Sans espoir de voir un jour le bonheur réapparaître, avec un effort terrible, il va essayer, puisque seule la peinture demeure, de détruire dans son œuvre et en lui-même tous les signes de l'ancienne vanité, signes aussi de son bonheur et de ses rêves. À la fois il veut, puisque c'est le but de la peinture, représenter le monde et à la fois le rendre méconnaissable, s'en rend-il compte tout de suite? Cet effort l'amène à se défaire de tout ce qui en lui pourrait le ramener à une vision différenciée, discontinue, hiérarchisée du monde. Une main vaut un visage. Un visage incointable. Incointable, un bâton. Un bâton, une main. Une main, une manche. Vers les années 1666 à 1669, il devait y avoir à Amsterdam autre chose que les tableaux d'un vieil escroc. Il y avait ce qui restait d'un personnage réduit à l'extrême, presque complètement disparu, allant du lit au chevalet, du chevalet aux chiottes, où il devait encore griffonner avec ses ongles sales. Et cela qui restait ne devait guère être autre chose qu'une cruelle bonté, proche, pas loin de l'imbécilité. Une main crevassée, qui tenait des pinceaux trempés dans du rouge et du brun, un œil posée sur les objets. Rien que ça. Mais l'intelligence qui liait l'œil au monde était sans espoir. Sur son dernier portrait, il se marre doucement, doucement. Il sait tout ce qu'un peintre peut apprendre, et d'abord ceci, enfin peut-être, que le peintre est tout entier dans le regard qui va de l'objet à la toile. Mais surtout, dans le geste de la main qui va de la petite mare de couleur à la toile, le peintre est là rassemblé dans le cheminement tranquille, sûr de la main. Plus que ça au monde, ce tranquille va-et-vient frissonnant, en quoi se sont changés tous les fastes, les somptuosités, toutes les hantises. Légalement, il n'a plus rien. Grâce à un jeu d'écriture, tout est entre les mains d'Hendrich, que l'admirable, et entre les mains de Titus, son fils. Rembrandt ne possédera même plus l'étoile qu'il peindra. Un homme vient de passer tout entier dans son œuvre. Ce qui reste de lui est bon pour la voirie. Mais avant, il doit encore peindre le retour de l'enfant prodigue. Il meurt avant d'avoir eu la tentation de faire le pitre.
Claude Desgliam, vous lisez un extrait de « Dans le secret de Rembrandt »
oui.
de Jean Genet.
Oui.
Pourquoi ce texte ?
Déjà, Genet, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est un auteur qui... Ça fait partie de ces gens, c'est comme Sade, c'est différent, hein, mais qui ont le courage d'aller dans des endroits de la pensée, de l'humain, qu'il paie très cher, je crois qu'il en payait cher personnellement. Et ça, ça me... Je trouve que... Moi, je me dis, j'ai de la chance qu'eux le fassent à ma place. Et ça m'émeut beaucoup chaque fois que ce risque est pris par des artistes, quoi. Et puis, en plus, j'ai joué avec Jean-Michel Rabeu. On a fait un spectacle sur le texte de Genet qui s'appelle « Ce qui est resté d'un Rembrandt déchiré en petits carrés bien réguliers et foutu aux chiottes ». Et on avait rajouté ce morceau-là.
Alors, il faut croire que ce qu'il y a dans ce morceau-là est important pour vous.
Ouais, ouais.
Et qu'est-ce qui est important pour vous dans ce qui est dit dans ce morceau-là ?
D'abord, je pense que Genet parle de lui aussi, de son écriture. Et de cette chose, moi, il m'a aidé à regarder les tableaux de Rembrandt aussi, ce texte. Quand je les ai vus, je ne sais pas, ça m'a aidé. Et cette chose où toutes les vanités humaine s'évapore pour qu'il reste le plus profond, le plus inouï, le plus mystérieux de l'homme. Il n'y a plus rien d'autre à la fin, après la douleur, après la vie, avec l'âge sûrement aussi de Rembrandt. Et comment Genet parle de ça, quoi. Ça me touche beaucoup, je trouve ça beau. C'est magnifique, on voit plus les ficelles, on voit plus l'efficacité de l'artiste, on voit juste l'essence, bon, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, c'est ça qui me touche beaucoup, qu'on arrive à plus voir du tout. C'est ça le but, moi je me dis. La technique, quoi. Et l'efficacité, le brio, tout ça, qui est magnifique aussi. Hein.
Et le supprimer.
À un moment, ça disparaît, c'est dedans. On ne peut pas faire sans, sûrement. Mais après, il ne reste plus tout ça. Je trouve ça beau, quoi.
Com'è bello il vino rosso, 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 bianco è il mattino. Sono dentro a un fosso e in mezzo all'acqua sporca godo queste stelle. Questa vita è corta. È scritto sulla pelle. Com'è bello il vino bianco, 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 rosso è il mattino, sento male a un fianco, vita, vita, vita. Sera dopo sera, fuggi tra le dita, spera, mira, spera.
On a vu récemment Claude Deglium dans la dernière mise en scène de Jean-Michel Rabeu, une mise en scène de ce très beau texte de Claudine Galéa, Au bord, qui sera repris à Pantin du 2 au 14 mars 2015 et dans d'autres endroits, doit-on espérer. Elle jouera aussi Claude Deglium du 11 au 14 juin aux Subsistances de Lyon dans La République du Bonheur, une pièce de Martin Krimp, mise en scène par Martial Di Fonzobo. Demain, elle poursuit pour vous son déballage de bibliothèque avec un extrait des Paradisiaques de Pascal Quignard. En attendant, c'est le Polaroid. Une partie du marché est déjà démontée. On hurle les tout derniers prix au kilo, mais c'est pour la forme. On éventre les premiers melons pour les tendre à goûter et jurer de sa bonne foi. On groupe ici trois branches de coriandre, ici sept cuisses de poulet. On brise le tarif et l'on admet à voix basse que c'est le moins frais qui reste sur les bras. Dans les allées déambulent les pauvres avec des têtes ahuries. Ils dormaient sous l'eau du canal ou dans une piole au dernier étage de l'église, sans la lumière, sans le chauffage. Et l'on s'acquitte de fruits et légumes gratuits au visage des pauvres ahuris que l'on ne reverra pas avant dimanche, le prochain. Sur le quai, une fille répète un texte. Ou bien que fait-elle en marchant dans tous les sens et remettant mécaniquement ses cheveux en natte blonde entre sa nuque et son épaule? Et puis là, deux hommes, des masses, les cheveux noirs, les épaules comme toi et moi réunies. Ils gonflent le torse, ils roulent des poings, ils tournent autour d'un troisième homme. Ils lui font peur, j'aime pas ça. Ils convoitent deux colonnes de cajots de fenouil. Le troisième homme les protège, les yeux si fiers et si déterminés. Il est debout devant, aucun moyen de passer. C'est une question d'honneur. Il n'y a pas un bruit, mais le ton monte, la tension et la fierté tout d'un bloc. Autour, l'on se dit qu'une dizaine de cajots de fenouil, ce serait dommage de se mettre sur la figure pour une dizaine de cajots de fenouil. Et quand bien même il les récupérait. Ça fait beaucoup, non ?
Pour ce Polaroid, Miss Chanel choisissait 16 Damen Dunes et elle promet de le mettre au plus tôt dans sa playlist. Toute cette semaine, les sciences et les chemins de la connaissance font route parallèle à la nôtre. Chacune de leurs émissions éclaire à sa façon la question européenne, donc auditeur de la Synergie. Soyez à l'écoute. Et je dois vous annoncer une excellente nouvelle depuis le temps qu'on l'attendait. Le 24 mai prochain, samedi prochain, Arlt est en concert au Chinois, à Montreuil, en compagnie de Thomas Bonvalet, avec qui il signe un très beau nouveau projet disponible sur vinyle et sur disque. Et ils seront ce soir-là accompagnés de Joséphine Foster. Ça, c'est pour les Montreuillois. Et puis le 25 mai, il y aura la Péniche à Lille. Le 21 mai, le Phare à Limoges. Le 23, Festival Musique Alambic à Rennes. Et on mettra le reste sur notre site internet. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, c'est le deuxième moment de l'émission et la première étape d'une semaine entièrement imaginée autour du mot Europe. Une première étape mythologique. Europe est une princesse et il y aurait dans son nom, son histoire, dans le motif de son enlèvement par Zeus, métamorphosé en taureau blanc, une histoire de rivage. Celui qu'elle quitte peut-être, le premier, forcé, sur le dos de l'animal, les rivages qui définissent les contours de la Grèce, les rivages des mers et ceux sur lesquels ses frères, en la cherchant, fondent des villes. Europe est une fille de l'eau, belle, aimante, la largesse de ses bras n'aurait d'égal que son accueil. C'est le poète Moskos de Syracuse, qui a vécu au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui établit explicitement le lien entre la princesse et un espace géographique. Si l'on dispute depuis aujourd'hui, si l'on discute les frontières politiques et géographiques de l'espace européen, Moskos écrivait, lui, il y a donc plus de 2000 ans, que la terre d'Asie et la terre d'en face se disputaient la jeune Europe, tout écartelée entre celle qui disait l'avoir nourrie et enfantée et l'autre, étrangère, qui disait tant désirée qu'elle lui appartienne. Françoise Fontizy-Ducroux, vous êtes donc sous-directrice honoraire au Collège de France, helléniste. Vous êtes l'auteur, entre autres, de L'homme cerf et la femme araignée, mythe des métamorphoses, paru en 2003 chez Gallimard, et de l'abécédaire de la mythologie grecque et romaine aux éditions Flammarion. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
On va commencer par parler de ce nom de princesse, ce nom de déesse. Quelle est l'étymologie exacte de ce mot? Qu'est-ce qu'on en sait?
Alors, l'étymologie est obscure, c'est dommage. Et puis, d'ailleurs, ça n'intéresse pas tellement les Grecs, parce que le mythe d'Europe est un mythe grec. Le nom d'Europe appartient probablement à une racine sémitique et signifie, désigne une région qui se trouve vers le couchant. Donc, on voit bien que le nom d'Europe est né au Moyen-Orient. Mais ce qu'en font les Grecs, il y a un déplacement, c'est un peu autre chose. Europe n'est pas une déesse. Bon, il y a plusieurs figures qui s'appellent Europe, mais celle qui nous intéresse, c'est la princesse, qui est une princesse phénicienne. La Phénicie, c'est l'actuel Liban, et son père qui s'appelle Agénor, et non pas Phénix, comme le dit Moskos dans le texte que l'on entendra tout à l'heure. Son père est le roi de Tyr, ville qui se trouve à l'heure actuelle tout à fait au sud du Liban, presque à la frontière israélienne. Et c'est là qu'a lieu l'enlèvement par Zeus.
On va parler de cet enlèvement dans un instant, mais qu'est-ce qu'on sait de ses ascendances, de cette princesse Europe?
Alors c'est très compliqué, et là vous entrez immédiatement dans l'essentiel du sujet, parce que si Europe est intéressante. Bon, Europe en elle-même fait un très très court voyage, une très très courte traversée de Phénicie en Crète. Et comme le font remarquer les anciens, on ne sait pas du tout pourquoi elle a donné son nom à ce continent, parce qu'elle n'a jamais mis le pied en Grèce. elle a mis le pied en Crète. Bon, ça suffit, la Crète fait à l'heure actuelle partie de l'Europe, et cela suffit pour que les Grecs aient choisi pour illustrer la pièce de 2 euros, la figure d'Europe sur le taureau. Mais si vous me posez la question de son ascendance, je vais me lancer dans un autre mythe. Alors, est-ce qu'on le fait tout de suite?
Alors, on va peut-être entendre Moskos. Bon. On va commencer par Moskos.
Une fois, Cupris envoya à Europée un doux songe. C'était l'heure où commence le troisième tiers de la nuit et où l'aurore est proche, l'heure où le sommeil posé sur les paupières des hommes détend leurs membres et les enchante en mettant à leurs yeux un tendre lien, l'heure aussi où s'ébat la troupe des songes véridiques. Alors la fille encore vierge de Phénix, Europée, qui dormait dans sa chambre à l'étage supérieur, crut voir deux terres se disputer à son sujet, la terre d'Asie et la terre d'en face. Leur aspect était celui de femme. L'une avait les traits d'une étrangère, l'autre ressemblait à une femme du pays. Elle s'attachait plus fort à la jeune fille, comme à sa propre fille, représentait qu'elle l'avait mise au jour et que seule elle avait pris soin d'elle. Mais l'autre, la saisissant de force de ses mains puissantes, l'entraînait sans qu'elle résistât et déclarait que, de par la volonté de Zeus, porteur d'Égide, il était décidé qu'Europée lui appartenait. Celle-ci se précipita hors de son lit garni de couvertures. Elle avait peur et son cœur palpitait. Car le songe qu'elle venait de voir avait été aussi net que ce que l'on voit quand on veille. Longtemps, la jeune fille demeura assise et silencieuse, ayant encore les deux femmes devant ses yeux ouverts. Puis enfin, elle éleva une voix craintive. « Qui des habitants du ciel m'a envoyé de semblables visions ? Que signifient les songes qui, planant dans ma chambre au-dessus de ma couche garnie de couvertures, m'ont dressé tout ému pendant que je dormais doucement ? Qui était cette étrangère que j'ai vue dans mon sommeil ? Quel désir d'elle a envahi mon âme ? Et elle, de son côté, avec quelle affection elle me faisait accueil et me regardait comme sa propre fille ? Ah, fasse les immortels, que ce songe s'accomplisse heureusement pour moi !»
Françoise Frontizy du Crou, on entend ici, comme promis, donc un extrait, le tout début de ce texte de Moskos, qui introduit la figure d'Europée et qui l'introduit par un songe. Elle est remuée et elle est tiraillée entre deux femmes continents qui veulent se l'approprier. Et elle termine par une sorte de prière, à savoir, elle espère que tout va bien se passer pour elle. C'est une introduction qui emmène à la scène de l'enlèvement sans véritablement la prédire. Quelle est la valeur de ce songe ?
Alors le songe intervient très très fréquemment dans les mythes. Le songe c'est un dieu, c'est une divinité qui annonce quelque chose aux humains. C'est un des moyens de communication du divin et de l'humain. Mais le texte de Moskos, comme vous l'avez dit, est daté du IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un poète, Moskos est un poète grec sicilien de Sicile, déjà d'une région un peu occidentale de la Méditerranée. Ce qu'il raconte dans ce songe pourrait paraître comme un anachronisme par rapport au noyau initial du mythe. Mais on ne peut pas parler d'anachronisme parce que le mythe se renouvelle sans arrêt et selon les époques, selon les points de vue politiques, il prend d'autres significations. Ce que raconte ce songe, l'opposition entre deux femmes, Europe, Asie, ça n'apparaît en Grèce, dans les représentations grecques, qu'à partir du 5e siècle, après les guerres médiques, après l'invasion de la Grèce par les Perses, qui a été stoppée à Marathon et à Salamine, deux grandes victoires fondamentales d'ailleurs pour l'avenir de l'Occident. Parce que si les Perses avaient envahi la Grèce, le sort de l'Occident aurait été tout à fait différent. Le mythe de Europe, à partir de ce moment-là, la Grèce se définit par rapport à l'Asie et contre l'Asie. Et l'invasion historique de la Grèce par les Perses répond mythiquement à un autre mythe qui est l'enlèvement d'Hélène, la guerre de Troie et la chute de Troie. Paris est venu à Sparte enlever Hélène, la femme de Ménélas. Il l'a emmenée à Troie, ce qui a déclenché la guerre de Troie, une guerre qui a duré 10 ans. Tous les Grecs se sont alliés, ont assiégé Troie et ont détruit Troie. Et ensuite, le grand roi Xerxès prend ce prétexte de venger la chute de Troie, bien que Troie ne soit pas exactement au royaume perse. Donc il y a un va-et-vient, mais qui s'instaure et qui devient actif politiquement, vraiment à partir du 5e siècle.
Un va-et-vient, vous voulez dire un parallèle à faire entre l'enlèvement d'Hélène et celui d'Europe ?
C'est-à-dire que le mythe un mythe qui met en évidence cette opposition entre ces deux femmes, telle que le raconte le songe de Moskos, n'apparaît qu'à l'époque classique. Le mythe d'Europe est antérieur et concerne une autre région, enfin une autre opposition, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus étroite, Phénicie-Crète.
Quel est le cœur du mythe d'Europe, puisqu'on l'a dit, finalement, ce songe n'est pas au cœur de ce mythe-là. Est-ce que c'est le moment le plus connu et le plus souvent rapporté, à savoir l'enlèvement par Zeus ?
Oui, c'est l'enlèvement, c'est la scène de séduction d'abord. Zeus est un habitué des amours avec les femmes. Il aime les femmes mortelles. Il est le dieu tout-puissant, le père des dieux. Et de façon générale, les dieux mâles sont attirés par les femmes des hommes. Zeus en particulier a épousé une de ses sœurs, Héra, Junon. Il a connu toutes les autres déesses et il leur a fait des enfants. Il a fait des enfants pratiquement à toutes les déesses sauf à ses filles. Et puis après, il s'intéresse aux femmes des hommes. Et Europe est l'une de ses conquêtes qui fait partie, son mythe, l'histoire d'Europe fait partie de la série des amours de Zeus. Amours qui prennent des formes diverses, puisque très souvent il se métamorphose et il adopte ici pour Europe, pour séduire Europe, la forme d'un taureau. La façon dont Zeus et les autres dieux mâles procèdent alterne soit la violence, le viol pur et simple, Zeus se précipite sur une jeune fille, ou la tentative de séduction avant le viol, ce qui est ici le cas.
C'est un peu plus le cas de Zeus là, qui est donc métamorphosé en taureau.
Il se métamorphose en taureau, il adopte la forme d'un taureau.
Dit-il, je suis maître de savoir quelle apparence j'ai envie de prendre.
Voilà.
Et il vient assez délicatement se mettre près d'elle, qui est, selon les versions, plutôt sur la plage, en tout cas près de l'eau.
Sur la plage, Europe, la fille du roi, va jouer sur la plage avec ses compagnes. Et le troupeau, Zeus s'insinue dans le troupeau royal. Il va vers la plage et Ovide raconte la scène de séduction d'une façon très drôle parce qu'il montre le taureau en train de faire des grâces, de batifoler, de se rouler sur le sable, il se comporte comme un gros chat par exemple, et c'est un superbe taureau blanc et Europe est fascinée. D'une part, il y a le désir de Zeus pour la femme mortelle, pour la jeune fille, la belle jeune fille. Les filles des hommes sont belles comme des déesses, mais elles ont quelque chose de plus. Elles sont mortelles, elles sont éphémères, et leur beauté. Et ça, c'est particulièrement séduisant pour les filles.
Elle est très innocente, puisqu'au départ, évidemment, elle ne soupçonne absolument pas que le taureau abrite un dieu sous cet animal, et elle le caresse, elle est séduite par l'apparence animale de ce gros taureau. Et c'est de cette caresse-là, nonchalante et innocente, que naît l'enlèvement. Il profite finalement de son attirance pour l'animal.
C'est la curiosité, en fait, la curiosité qui perd les filles. Ça se répétera très très souvent. Elle s'approche, bon, il se roule, il se redresse, elle le couronne de fleurs avec ses compagnes, des guirlandes de fleurs sur les cornes. Elle le caresse et puis elle finit par s'asseoir sur son dos. Et là, hop, immédiatement, le taureau se redresse, il part dans les flots et puis il s'éloigne dans la mer. Les compagnes crient et Europe est terrifiée. Elle se cramponne à ses cornes et elle arrivera en Crète.
Et ils arrivent en Crète et ils arrivent au pied d'un arbre. Et c'est au pied d'un arbre qu'ils s'unissent.
Un platane qui, paraît-il, existait encore à l'époque classique et que les Grecs se montraient. Voilà, ça c'est le platane sous lequel Zeus s'est uni à Europe.
Est-ce qu'il faut voir quelque chose d'intéressant dans le fait que la précision de l'arbre et la précision presque de la sorte d'arbre au pied duquel ils s'unissent est souvent faite et souvent mentionnée ?
C'est-à-dire qu'il y avait un lieu de culte vraisemblablement et d'intérêt pour les voyageurs. Parce qu'il faut bien voir que on se déplaçait beaucoup en Grèce à l'époque classique et puis hellénistique et à l'époque romaine. Donc c'est intéressant de montrer le lieu. Effectivement, les lieux sont souvent... C'est un effet de réel, le platane.
Quelle est la descendance de cette union-là, un peu forcée donc ?
Alors, ils ont trois fils.
Il faut sortir les schémas.
Non, parce que c'est très compliqué la généalogie et je ne veux pas me tromper. Trois fils qui sont connus, dont les noms sont connus, Minos, Radamante et Sarpédon. Alors, Minos et Radamante deviendront juges aux enfers. Sarpédon, c'est un guerrier qui va mourir à la guerre de Troie. Ça permet de donner une datation à ce mythe, une datation fictive, bien entendu. Et le plus intéressant, c'est Minos, parce qu'avant de devenir roi aux enfers, il aura une histoire très, très compliquée, très complexe. Et puis, il fera entrer dans le jeu Athènes, puisque Minos est le grand ennemi d'Athènes. Minos, ce sera... Oui, et Minos est l'époux de Pasiphaé, qui, vous le savez, sera séduite par un taureau. Voilà, il y a la récurrence du taureau blanc. Un taureau blanc magnifique, mais c'est un vrai taureau, cette fois-ci, qui est envoyé par Poséidon, et que Minos devrait normalement sacrifier à Poséidon. Et il trouve l'animal si beau qu'il veut le garder comme étalon dans son troupeau. Et les dieux se vengent. Poséidon demande à Aphrodite de le venger. Naturellement, il se venge sur sa femme. Lorsqu'un homme est coupable, c'est toujours sa femme qui est victime et qui prend.
C'est beaucoup
et
plus
pratique. Et Pasiphaé s'éprend, vous le savez, de ce superbe taureau blanc. Mais cette fois-ci, c'est un véritable taureau et c'est un véritable amour. Et il y a une véritable union sexuelle avec le taureau. Alors qu'en Crète, sous le platane, Zeus avait pris une forme humaine. Et bon, très rapidement, Pasiphaé fait appel à l'artisan Dédale, qui lui construit une machine en forme de vache. Donc, il y a beaucoup de bovidés, de bovins dans cette série de mythes dans laquelle elle entre. Et puis, il y a une union.
Entre le taureau Zeus et elle qui peut entrer dans une vache fictive.
Alors ça, c'est Pasiphaé, donc qui est la belle-fille de la bru d'Europe, qui met au monde le Minotaure, et puis ce monstre mi-homme, mi-taureau, que Thésée va venir tuer. Et après, il enlèvera Ariane, la fille de Minos et de Pasiphaé, puisque ce n'est pas simplement Phèdre. Et il l'emmènera, et enfin, c'est une toute autre histoire.
Justement, pour rester peut-être sur le cœur de ce mythe d'Europe, quand elle est enlevée de ce rivage où elle jouait avec ses compagnes sur la plage, personne ne s'inquiète, rien n'est entrepris pour la chercher.
Si.
Il me semble que dans cette recherche, il y a aussi quelque chose de très important.
C'est tout à fait important, mais alors là, on aborde vraiment l'aspect géographique. C'est-à-dire que son père, qui s'appelle Agénor, et qui... il faudra aussi parler de l'ascendance, on y reviendra peut-être plus tard. Il s'inquiète tout de même de la disparition de sa fille. Il envoie ses frères à sa recherche. Ses frères, ce sont Phénix, Cilix et Cadmos. Et ses frères explorent toutes les régions environnantes. Phénix donnera son nom à la Phénicie. Cilix, la Cilicie, qui est en Asie mineure, un peu plus haut, dans l'actuelle Turquie. Et Cadmos, lui, ira en Grèce, vraiment en Grèce. Et c'est donc le frère d'Europe, en réalité, qui met le pied sur le continent grec. Il la cherche longtemps. Longtemps, longtemps en Grèce. Il ne la trouve pas, naturellement, puisqu'elle est en Crète. Et il finit par aller à Delphes, s'adresser à l'oracle, qui lui conseille d'arrêter sa quête. C'est pas la peine qu'il cherche sa sœur. Il lui dit qu'en revanche, il ferait bien de suivre une vache errante, qui n'est pas blanche celle-ci, mais et qui a deux croissants sur le flanc, deux croissants blancs, et de fonder une ville là où la vache s'arrêtera. Et la vache s'arrête à un endroit, en Béotie, et Cadmos va fonder Thèbes, une ville très très importante. Et ce qui est important surtout, c'est que Cadmos, il apporte en Grèce l'alphabet phénicien, qui est un alphabet phonétique, le premier alphabet phonétique, qui est un alphabet consonantique, d'abord uniquement, que les Grecs adopteront, auquel ils ajouteront des voyelles, et ce sera l'alphabet grec. Et bon, c'est très très important que les poètes, parce que les mythes sont l'œuvre des poètes, que les poètes attirent l'attention sur ce fait que c'est Cadmos qui a introduit l'alphabet phonétique en Grèce, puisque c'est cet alphabet qui permettra plus tard aux poètes de fixer leurs textes par écrit, de nous les faire parvenir. Parce que jusque-là, les mythes sont essentiellement de transmission orale. Pendant des siècles et des millénaires, les mythes se racontent et se chantent devant les cours princières et royales.
Puisqu'on parle de poèmes, on en écoute un autre.
Autour d'elle, son voile épandu dans les airs, comme le lin qui pousse une nef passagère, s'enfle et sur son amant la soutient plus légère. Mais dès que nul rivage à son timide effroi, nul mont ne s'offrit plus, qu'elle n'eut devant soi rien qu'une mer immense et le ciel sur sa tête, promenant autour d'elle une vue inquiète, « Dieu taureau, quel es-tu ? Parle, taureau trompeur, où me vas-tu porter ? N'en as-tu point de peur de ces flots ? Car ces flots aux poupes vagabondes cèdent, mais les troupeaux craignent les mers profondes. Où sera la pâture et l'eau douce pour toi ? Es-tu Dieu ? Mais des dieux que ne suis-tu la loi ? La terre aux dauphins, l'onde aux taureaux est fermée. Mais toi seul sur la terre et sur l'onde animée cours. Tes pieds sont la rame, ouvrant le sein des mers, et bientôt des oiseaux, peut-être dans les airs, iras-tu joindre aussi la volante famille. Ô palais de mon père, ô malheureuse fille, qui pour tenter sur l'onde un voyage nouveau, seule, errante, et suivie ce perfide taureau. Et toi, maître des flots, favorise ma route. Mon invisible appui se montrera sans doute. Sans doute ce n'est pas sans un pouvoir divin que s'aplanit sous moi cet humide chemin. Elle dit. À ces mots, pour la tirer de peine, du quadrupède amant sort une voix humaine. Ô Vierge, ne crains point les fureurs de la mer. Dans ce taureau nageur, tu presses Jupiter. Je me choisis en maître une forme, un visage. Mon amour, ta beauté, mon sous ce corps sauvage, fait mesurer des flots cet empire inconstant. La crête, île fameuse, et le bord qui t'attend. Il m'a nourri moi-même, et là ta destinée te promet de grand roi, fils de notre Hyménée. Il dit. Le bord paraît, les heures en ce lieu ont préparé son lit. Il se relève Dieu, détache la ceinture à la belle étrangère, et la Vierge en ses bras devient épouse et mère.
On entend Cyril Baer lire un extrait de ce poème « L'enlèvement d'Europe » signé André Chénier. Là, on a vraiment passé des siècles et des siècles puisqu'on se retrouve au XVIIIe siècle. C'est un poète du XVIIIe siècle qui reprend le mythe de l'enlèvement et on l'a entendu le moment où Europe s'inquiète sur le dos du dieu animal et après l'union près de l'arbre de devenir femme et de devenir mère. Il y a dans ce passage du poème qu'on a choisi moult références au chemin, à l'inquiétude de savoir où sera l'eau, où seront les pâturages, quelle sera la route à prendre, soit une dimension extrêmement géographique dans les inquiétudes d'Europe qui presque, avec ces questions, cherche à, on a l'impression, faire des contours, à tracer des bords. Et il y a ce mot d'ailleurs, et le bord paraît. Quelle est la dimension, on en a parlé un tout petit peu avant la lecture de Cyril, proprement géographique prise dans ce mythe-là ?
Elle est fondamentale, elle est fondamentale. Mais avant d'aborder, si vous le permettez, je voudrais signaler tout de même l'aspect que Chénier met en évidence, c'est l'aspect plastique et figuratif de ce motif de la femme sur le taureau, la jeune fille fragile sur le taureau puissant, qui aura une fortune considérable.
En peinture, vous voulez dire ?
En peinture, mais même au début de l'art grec, on la trouve sur des figurines de terre cuite, des bas-reliefs. Elle figure sur une métope de Célinonte, et puis après la peinture pompéienne et toute la peinture de la Renaissance et la peinture classique.
Quelles sont les récurrences de cette représentation ? C'est vraiment la jeune femme nue et belle qui épouse le corps musclé du taureau par-dessus les flots. C'est ça qui est vraiment premier ?
Il y a cela, effectivement, qu'ont développé tous les peintres, Titien, Rembrandt, Poussin, jusqu'à Matisse. Il y a aussi un autre aspect que met en relief un auteur de la fin de l'Antiquité qui s'appelle Philostrate, qui a composé des descriptions de tableaux qui peuvent être vrais ou fictifs. Et il met en évidence la façon dont la jeune fille a sa robe, son étoffe plaquée contre son corps et mouillée, humide. Donc l'intérêt, bon, elle a aussi son voile qui est développé, qui est étendu au-dessus de sa tête, le voile qui forme une voile. Il y a cela, mais c'est surtout le corps, c'est ce que les sculpteurs grecs appellent le drapé mouillé, c'est-à-dire les femmes en principe, en statuaire, ne sont pas représentés nus, ce sont les sauf Aphrodite à partir d'un certain moment. La femme est habillée et le drapé mouillé permet de faire apparaître le corps par transparence. Et c'est ce que décrit ce rhéteur en décrivant Europe. Elle est vêtue, son voile, sa robe est plaquée par l'eau, par les vagues, contre son corps et on la voit complètement nue. Donc finalement, il y a cet aspect très érotique de la jeune fille innocente, mais nue et qui va être, qui va devenir mère, comme on dit. Il va s'unir à elle. Il fait 3 enfants, on ne sait pas s'il les lui fait d'un seul coup ou s'il reste 3 ans auprès d'elle.
3 ans, vous voulez dire, pour faire les 3 enfants?
Pour faire les 3 enfants, ça n'est pas précisé. Mais il se comporte très bien, il la donne. En général, c'est ce qu'il fait toujours. Il les marie. Il lui donne un bon époux qui va élever ses fils.
Pour en revenir à cette question géographique, on disait que donc le poème d'André Chénier marquait cette géographie par les inquiétudes d'Europe qui questionnent les chemins, les routes. C'est quand même un aspect qui nous intéresse en ce début de semaine que nous allons consacrer à l'Europe.
Il est fondamental. Oui.
Comment expliquer qu'à un moment donné, on décide de donner officiellement au continent ce nom-là?
Bon, il est très probable, comme je vous l'ai dit, que le continent s'appelait Europe avant l'invention de la figure d'Europe. Les mythes sont étiologiques, c'est-à-dire explicatifs. Ils expliquent une réalité. Mais c'est assez flou, puisque au départ, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une traversée maritime de Phénicie, vous voyez où il a fait, jusqu'en Crète. Hein, donc c'est une toute petite portion de la Méditerranée. Et toute cette histoire de voyage, de déplacement, sont assumées plutôt par ses frères. Ses frères qui ont des fonctions toponymiques. Ils donnent des noms aux régions qu'ils vont traverser, comme, où ils vont se fixer. Mais il faut remonter en arrière, parce que le mythe d'Europe s'insère dans un ensemble plus vaste. Alors, je vous ai donné la descendance, mais il faut parler de l'ascendance. Et l'ascendance, c'est une histoire qui met en scène, non pas un taureau, mais une vache. C'est l'histoire d'Io, Io et Zeus. Parce que Io, la vache Io, elle est l'arrière-arrière-grand-mère d'Europe. Et Io, c'est encore une histoire d'un amour de Zeus. Zeus intervient dans cette généalogie auprès de plusieurs filles. Il est très attiré par les filles de cette famille. Donc, il séduit Europe après quelques siècles, donc quelques générations après avoir séduit Io. Alors, Io est une jeune fille argienne, c'est-à-dire qu'elle est grecque. Ça se passe à Argos. Argos, c'est dans le Péloponnèse. Ce qui fait que ces mythes-là, ça indique bien le point de vue d'où ils sont façonnés. C'est une vision du monde qui part de la côte, vous voyez où est le Péloponnèse, la côte est de la Grèce, et qui va jusqu'à l'Asie mineure, où il y a énormément de cités grecques également. Io est une prêtresse d'Héra, la femme de Zeus, donc. Zeus, là, il y va carrément, il la viole, sans rien lui demander. Non, elle s'enfuit, donc il la viole. Et pour la dissimuler à la jalousie de sa femme, Héra, il la transforme en vache, une vache superbe, une belle génisse blanche encore. Et Héra, qui n'est pas dupe, affole la vache, elle la pique, enfin, elle lui affecte un temps qui la harcèle, et puis elle la rend folle. Et Io s'élance dans le monde, et c'est Io en réalité, qui avant Europe, et à la place d'Europe, dessine tous les contours du monde qui sera à cette époque-là considéré comme l'Europe. Elle part vers le nord d'abord, d'Argos, elle monte sur l'autre côte de la Grèce, elle donne son nom à la mer Ionienne, elle monte dans le pays des Scythes, elle va jusqu'au Danube, elle redescend, elle passe par le Caucase où elle rencontre Prométhée, elle franchit le Bosphore, donc encore une fonction toponymique, le Bosphore, c'est le passage de la vache, Boos, le bovin. Elle redescend en Arabie et elle s'arrête en Égypte, au bord du Nil, où Zeus lui rend sa forme humaine et s'unit à elle sous forme de femme. Et elle met au monde un fils qui s'appelle Épaphos, qui se mariera avec Libye. Vous voyez, la Libye, c'est le nom de tout le continent africain à cette époque-là. Donc, c'est une Grecque qui arrive en Égypte, dont le fils se marie avec Libye. Ce Libye a deux fils, Bélos et Agénor. Et Agénor va en Phénicie. Et Agénor, voilà, c'est le père de...
Et Agénor, c'est le père d'Europe.
C'est le père d'Europe. Vous voyez, donc, Zeus a récidivé. Il a séduit... plus ou moins brutalement, deux jeunes filles, deux mortelles. Mais il y en a une qui a vraiment dessiné tout le... Alors, c'est une représentation, c'est la représentation du monde grec à une certaine époque, vraisemblablement à l'époque archaïque. Argos, c'est la cité mycénienne, c'est la cité d'Agamemnon, c'est la ville d'Agamemnon, Argos Mycène. Donc, c'est une vision du monde qui est limitée à ce moment-là à la partie orientale de la Méditerranée. Et vous voyez tous ces noms de pays. Donc ce que dit Chénier, enfin sur l'avidité de parcours, ou bien la crainte peut-être de voyage d'Europe, ça fait partie, c'est plutôt à attribuer à Io.
À son arrière-arrière-arrière-grand-mère. Oui.
Bon, ça n'est pas fini d'ailleurs, je peux continuer ?
Oui, bien sûr.
Bon, parce que... Non, c'est un immense mythe géographique qui dessine des allers-retours, des parcours maritimes, parcours terrestres. Je vous ai dit que le fils d'Europe, Minos, a eu des conflits avec Athènes. Donc à ce moment-là, l'activité, le mythe, mais aussi la vie politique se déplace légèrement. Ça n'est plus Thèbes, ça n'est plus Argos, c'est Athènes qui est en conflit avec Minos. Et Minos partira à la poursuite de Dédale pour se venger de la naissance du Minotaure. Et Dédale, vous le savez, fera une traversée aérienne. Et il ira atterrir en Sicile. C'est donc un autre parcours, une autre façon de baliser l'espace méditerranéen, mais par mer cette fois-ci. Minos va partir à sa poursuite, mais par bateau. Et c'est en Sicile qu'il va mourir, finalement. Donc vous voyez comment, de mythe en mythe, l'espace méditerranéen s'élargit.
Et presque il se solidifie, c'est-à-dire qu'en envoyant, entre guillemets, en envoyant mythologiquement parlant, des êtres, qu'ils soient animaux, par les mers, par les fleuves, par les terres, comme si on consolidait un espace petit à petit
on
à travers les mythes.
Et il y a une expansion.
Cependant, est-ce qu'il faut prêter attention au fait que ce soit des femmes qui, notamment via la figure de Io et via la figure d'Europe, partent à la première conquête. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la consolidation se fait par des figures plutôt masculines, mais que la première conquête, les premières allées dans l'inconnu, sont faites par des femmes, ce qui va plutôt à l'encontre de l'idée d'une figure féminine dans l'antiquité.
Mais les femmes sont forcées, dans tous les sens du terme, forcées, aussi bien sexuellement que Io est forcée à parcourir le monde, à galoper, complètement affolée. Et Europe est enlevée, elle ne demande pas, et elle se cramponne. Mais les femmes sont des reproductrices, c'est l'instrument reproducteur, c'est la femme qui construit la généalogie, bien que dans la généalogie, ce sont les hommes qui sont les plus importants. La femme est l'instrument de...
Donc c'est cette valeur que vous donnez à la figure féminine, à la récurrence de la figure féminine dans cette idée de conquête et de découverte territoriale et géographique, à savoir, on envoie la femme, même si elle est forcée, à des endroits où elle pourra se reproduire et finalement engendrer population.
Oui, parce que ce n'est pas tout, si je peux me permettre. Parce que... je vais remonter là, au-dessus d'Europe. Agénor avait un frère, hein. Puisque Epaphos, le fils de Dio, a eu deux fils. Un frère qui s'appelait Bélos, donc un Égyptien, ça se passe en Égypte, qui a eu deux fils, lui, qui s'appelaient Danaos et Égyptos. Et ces deux fils, donc, qui sont les cousins d'Europe, disons, les cousins d'Europe. Ils ont eu chacun 50, l'un 50 filles et l'autre 50 fils.
C'est honorable.
Et Danaos, oui, c'est très important, sans doute avec plusieurs femmes. Ils se sont disputés, ils ne s'entendaient pas. Mais Égyptos voulait absolument marier ses 50 fils avec ses 50 filles. Danaos, les filles de Danaos, ce sont les Danaïdes. Donc il s'est enfui, lui. Il s'est enfui Il ne voulait pas de ce mariage. Les filles non plus ne voulaient pas épouser leurs 50 cousins. Il s'est enfui, où ça ? À Argos. Donc il est revenu à Argos, d'où Io était parti. Il est revenu en Grèce. Et donc, vous voyez, il y a un autre retour d'Égypte vers Argos. On voit vraiment comment toute cette partie de la Méditerranée est prise dans un réseau de trajets. Et à Argos, les fils d'Égyptos poursuivent les Danaïdes. Ils arrivent à Argos, ils les rejoignent, ils les épousent. Elles acceptent en apparence le mariage, mais leur père Danaos leur conseille d'égorger les maris pendant la nuit de noces. Ce qu'elles font, sauf une, qui épargne son époux et qui donnera naissance aux Danaïens, c'est-à-dire les Grecs. C'est le nom que portent les Grecs. Donc vous voyez comment il y a vraiment un réseau. Europe, en réalité, n'en occupe qu'une toute petite partie.
Dans ce grand mythe familial qui, comme un motif d'araignée, à la fois
absolument ça.
Capture le territoire le mythe, et le nomme.
Le mythe est une configuration qui ressemble à une toile d'araignée, ou un net, un réseau, si vous voulez, où tout se tient et tout se... Et si je peux ajouter encore quelque chose, c'est que Cadmos à Thèbes, lui, aura 4 filles qui lui poseront beaucoup de problèmes, dont l'une s'appelle Sémélée, qui va encore attirer la convoitise de Zeus. Et Zeus va s'unir à elle, cette fois-ci sous forme humaine. Et puis Sémélée ne sera pas satisfaite et demandera à Zeus de lui apparaître dans toute sa gloire. Elle sera foudroyée. Et elle était enceinte, naturellement, parce que toutes ces unions sont fécondes. Et c'est l'une des fonctions de ces unions entre Dieu et humain, c'est aussi de fonder des lignées et d'anoblir des lignées. Et Sémélée était enceinte d'un fœtus que Zeus recueille et qu'il enferme dans sa cuisse. C'est Dionysos Bacchus, qui devait devenir un grand dieu, parce que, à la différence des autres héros, il aura été porté dans la cuisse de Zeus. Et puis Dionysos finira par épouser Ariane, la fille de Minos et de Pasiphae.
Et la boucle est presque bouclée.
Et ils représenteront pour le monde antique, en particulier pour les Romains, le couple exemplaire, l'amour conjugal, enfin la conjugalité dans l'amour, avec quelque chose de tout à fait unique. Ce sera un couple exemplaire d'une... Et il divinisera Ariane, qui deviendra une constellation. Voilà, donc vous voyez que Europe... Bon, c'est un mythe vraiment géographique, toponymique, qui représente le monde tel que le voyaient les Grecs à une certaine époque.
Radical changement d'époque, on sera au XIIe siècle, fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle. Pour les poèmes que nous écouterons à cette heure-ci jusqu'à vendredi, ils sont signés Adéwich d'Anvers. Ce sont les poèmes des Béguines, ils nous sont lus par Elsa, Le Poivre de la Comédie Française. On écoute.
Je lui laisserai volontiers abattre ma tête, s'il voulait croire à mes peines, celui qui me ravit le sens et me trompe par l'éclat de sa face. Pourquoi me montrer ce visage et ne jamais m'achever? Car lorsque je me crois perdu, vous recommencez votre jeu espiègle et trompeur. Ah, bel amour, vos tours sont trop rapides. Quand vous dites une chose, vous en pensez une autre. Maintenant doux, puis cruel, puis de nouveau changé. Vous feriez tout de même bien de vous décider. Vous jouez trop fort pour ceux qui servent dans votre domaine et veulent à chaque instant faire votre volonté. Les sages et les prudents, vous les rendez fous. Vous leur en faites voir de toutes les couleurs. Et lorsqu'ils sont au désespoir, vous les inondez sans crier gare de vos richesses. Vous êtes malicieux, vilain et plein de clémence, doux comme l'agneau et sans pitié comme un animal farouche en liberté dans le désert sans forme.
Elle est taureau, s'ennuie le dimanche quand il s'agit de courir pour nous. Un peu de sable, du soleil et des planches, un peu de sang pour faire un peu de boue. Mais c'est l'heure où les épiciers se prennent pour Don Juan. C'est l'heure où les Anglaises se prennent pour Monterland. Ah, qui nous dira à quoi ça pense? Un taureau qui tourne et danse et s'aperçoit soudain qu'il est tout nu. Ah, qui nous dira à quoi ça rêve? Un taureau dont l'œil se lève et qui découvre les cornes des cocus. Les taureaux s'ennuient le dimanche quand il s'agit de souffrir pour nous. Mais voici les picadors et la foule se venge. Voici les toreros, la foule est à genoux. Et c'est l'heure où les épiciers se prennent pour Garcia Lorca. C'est l'heure où les Anglaises se prennent pour la Carmencita.
Françoise Frontizy-Ducroux, c'est grâce à vous qu'on termine par Jacques Brel et les taureaux. Évidemment, on entend cette chanson un peu différemment après avoir parlé de Zeus transformé en magnifique taureau blanc. Merci beaucoup d'avoir ouvert cette semaine avec tout un tas de, comment on pourrait dire, de formes en araignée, partie de cette princesse Europe et en revenant par ses ascendances pour baliser d'une certaine manière le continent et le mot Europe qui nous occupera jusqu'à vendredi. Je rappelle le titre de ce livre, L'homme cerf et la femme araignée, mythes de métamorphose, c'est paru aux éditions Gallimard, et L'abécédaire de la mythologie grecque et romaine, paru aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Festival. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr. Vous pouvez aussi vous y abonner au podcast. L'émission s'appelle Pas la peine de crier. Les petits bouts qui la composent s'appellent Poèmes du jour, Polaroid ou Je déballe ma bibliothèque. Pour nous écrire, un formulaire fonctionne parfaitement sur notre page. Nous vous remercions pour tous vos mots vraiment gentils. Aux manettes aujourd'hui, c'était Juliette Delperroux. Merci à Céline Geoffroy, Marie Placet et Béatrice Leca. Merci à Cyril Baer, Inès Duperron et Romain de Bagdelief qui pensent et préparent joyeusement cette émission avec moi. Une émission réalisée par Miss Anne-Laure Chanel. On sera là demain, même heure, même signal, même radio.